des apôtres. Livre des Actes des apôtres au chapitre 13e. Actes des apôtres au chapitre 13e et à partir du verset 16. Actes des apôtres chapitre 13 et le verset 16. Voici ce qui nous est dit. Paul se leva, donc l'apôtre Paul, et ayant fait signe de la main, il dit, « Homme israélite, il se trouve dans une synagogue et il prêche. Et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il en fit sortir par son bras puissant. Il y nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il en accorda le territoire comme propriété. » Après cela, durant 450 ans environ, il ordonna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean-Baptiste, avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons lu ici l'exprès d'une prédication, un message qui nous est retransmis, un message qui a été prêché voilà, près de 2000 ans dans cette synagogue de la ville d'Antioche de Pisidie lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Le livre des Actes des Apôtres est consacré à la diffusion de l'Évangile. Nous y voyons deux parties, une première partie qui se localise sur la ville de Jérusalem où l'Église se conforte, se consolide, elle est remplie du Saint-Esprit, elle commence à témoigner dans cette ville et le message, malgré la persécution de cette ville, eh bien, s'enracine dans les cœurs. Et puis, il y a une deuxième partie où c'est le temps, maintenant vous êtes forts, vous êtes remplis du Saint-Esprit, il faut que vous alliez eh bien, jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance et voici, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, c'est cette deuxième partie qui commence à partir du chapitre 13, qui est concentrée autour du ministère formidable eh bien, de l'apôtre Paul, ce missionnaire infatigable qui va partir de Jérusalem pour aller eh bien, dans toute la Turquie actuelle, dans l'Europe, en Grèce et jusqu'à dans la ville de Rome pour porter eh bien, le beau message de l'Évangile, amenant à la fois eh bien, des multitudes au Seigneur. Alléluia. Et ici, nous sommes donc dans un moment précis où l'apôtre Paul, eh bien, dans cette synagogue de cette ville d'Antioche, eh bien, est en train de prêcher l'Évangile. Pourquoi il se trouve dans une synagogue ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que dans les synagogues qu'on pouvait trouver, eh bien, la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la loi et les prophètes qui annonçaient la venue du Sauveur. Et puis, en même temps, les Israélites, le peuple juif, étaient dans l'attente, eh bien, de la venue du Messie. Et nous voulons nous souvenir que les premiers chrétiens, c'était d'abord des juifs, des gens qui, eh bien, étaient dans l'espérance et dans l'attente de la venue du Sauveur. Et puis, lorsque leur cœur a été transformé, eh bien, ils ont proclamé ce salut devant, eh bien, les païens, devant les juifs, devant toute race, toute nation, parce que Dieu n'est pas juif, mais Dieu, c'est le Dieu de tous. Alléluia! Et il veut se révéler, il a donné son Fils, eh bien, afin que tous les hommes soient sauvés. Alléluia! Mais dans ce texte, vous avez lu, vous avez remarqué, eh bien sûr, il nous est noté, eh bien, toute l'œuvre de Jésus-Christ, vous avez vu, il nous est parlé de Jean-Baptiste, il nous est parlé de la croix, il nous est parlé de la résurrection. Jésus est vivant, il est ressuscité, alléluia. Ça veut dire qu'on peut s'attendre encore à de sa part une intervention pour nos vies, mais vous avez remarqué également, eh bien, que l'apôtre Paul va faire revenir à plusieurs reprises dans sa prédication le nom de David, le nom de David. Et vous avez remarqué que dans le verset, je retrouve le verset 22, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et c'est de David dont je voudrais vous parler. Un homme selon le cœur de Dieu. Et je crois que ce que Dieu a fait dans la vie de David, Dieu veut le faire également dans notre vie. Et nous allons voir ensemble, eh bien, ce que c'est qu'un homme selon le cœur de Dieu, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu qui servent au dessein de Dieu dans leur temps, dans leur génération et qui accomplissent toutes ses volontés. Et je crois que quand on a rencontré Jésus, ce qu'on veut dire, Seigneur, c'est « Mais je veux être un homme, une femme, selon ton cœur. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je veux te plaire, je veux te servir, et je veux être conduit par toi. Alléluia. » Et là, il y a cet homme, eh bien, qui est David. Et on va voir comment David est entré dans le plan de Dieu. On va voir que David a connu également d'une façon exceptionnelle la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. On verra également ce que ça veut dire, finalement, avoir un cœur selon Dieu. Et on trouvera également, eh bien, que David, il va être à l'image du Fils de Dieu. Parce que même si David apparut des siècles avant la venue du Messie, mais David, qui était un enfant, qui était un prophète de Dieu également, a reflété l'image de Jésus. Et je crois que dans notre génération, dans l'Église, l'Église a besoin d'hommes et de femmes qui soient des David, que Dieu est capable d'utiliser, de se servir pour faire briller cette vérité. Jésus est vivant, il veut te sauver. Alléluia. Amen. Alors je voudrais insister sur le fait donc de David qui est entré dans le plan de Dieu. Et je voudrais vraiment que nous puissions nous attacher à comprendre ce texte qui nous dit ceci. J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. Un homme. J'ai trouvé un homme. Un homme. Le plan de Dieu, le salut, il est pour l'humanité. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4 nous disent « La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu agit d'une manière pédagogique. Avant que Jésus, le Christ, vienne, Dieu annonce son salut et au travers, eh bien, d'hommes et de femmes extrêmement simples. Des gens qu'on aurait naturellement oubliés. Si la Bible n'en parlait pas, on ne saurait même pas qu'ils existent. Je pense à Abraham, par exemple. Abraham, c'est un illustre inconnu, c'est un anonyme, mais la Bible, si la Bible n'en parlait pas, mais personne ne parlerait d'Abraham. Abraham, allez, regardez ce qu'on va lire dans le... Vous êtes toujours là, hein, voilà. Deutéronome. Est-ce que vous aimez lire la Bible ? Amen, merci, ma sœur. Deutéronome, chapitre 26 et le verset 5. Est-ce que ça peut apparaître à la vidéo ? C'est ça ? Alors, c'est pas ça, hein, mon frère. Hein, c'est pas ça que j'ai sur moi. Alors, c'est moi qui me suis trompé ? Deutéronome, chapitre 26 et le verset 5. Voilà ce qui nous est dit. Ah, ben voilà, c'est ça. Alors, ça a changé depuis tout à l'heure. Ah. Vous allez me rendre chèvre, hein ? Voilà. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Donc c'est Moïse qui dit au peuple ce qu'il doit dire. Mon père, Abraham, hein, était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. Il y fixa son séjour et là, il devint une grande nation, nation grande, puissante et nombreuse, verset 6. Les Égyptiens nous maltraitèrent, ils nous opprimèrent, ils nous soumirent à une dure servitude, la suite encore. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression et nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur et des signes et des miracles. Vous avez vu l'humilité avec laquelle le peuple devait s'adresser. Mon père, ce n'était pas le grand Abraham. Mon père, c'était un araméen nomade. Il vivait sous des tentes. Il avait des troupeaux. Et nous voyons eh bien, des hommes eh bien, dans leur complète humanité. Il y a quelque temps en arrière, on a parlé de Marie dans une réunion de prière. Nazareth oubliée, mais Dieu pense à elle. Et si Dieu pense à elle, ça veut dire que Dieu est capable de penser à tous les hommes. Il n'y a personne qui est oublié, jusqu'à David. Et ceux et celles qui connaissent la Bible, vous savez bien sûr qu'il va devenir un grand roi, certainement le plus grand roi d'Israël. Mais lorsque Samuel vient le chercher, on l'a oublié. Il y a un festin qui est préparé par Isaïe. Il y a tous les fils aînés, eh bien les fils aînés de David, ils sont tous là, 7, et ils sont forts, ils sont costauds. Mais Dieu les a rejetés. Mais quand Samuel cherche celui que Dieu a choisi, il dit, mais Dieu les a tous rejetés, mais tu n'as plus d'autres fils, Isaïe, si, on en a un, mais il est en train de garder les brebis, fais-le venir. Et lorsque eh bien, David vient, le Saint-Esprit dit à Samuel, c'est lui, je l'ai choisi, c'est lui, oins-le, verse sur lui l'huile d'onction. Et nous voyons que David, eh bien, c'est un jeune homme, eh bien, qui était que Dieu a pris de derrière les brebis, comme le psaume 78 au verset 70 nous le dit. Ça signifie ceci, c'est que Dieu s'adresse à des hommes, à des femmes, dans toute leur simplicité, dans toute leur humilité. Vous savez ce que c'est l'humanité ? Alors l'humanité, c'est pas un journal, hein. Voilà, c'est un journal, mais on va pas parler de ça. Mais l'humanité, ça nous parle eh bien de la nature humaine telle qu'elle est depuis qu'il y a eu la chute dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Une humanité brisée. Lorsque je lis l'Écriture dans Luc 4, Jésus présente l'humanité comme étant pauvre, avec un cœur brisé, aveugle, opprimé. Et si elle est opprimée, ça veut dire qu'il y a aussi des oppresseurs. Et nous voyons que l'intention de Dieu, c'est de sauver les hommes dans leur simplicité, dans leur humanité. Je voudrais vous dire ceci, avant de nous parler quelques instants du ciel. Peut-être quelqu'un se trouve dans un découragement, mais tout à fait, j'allais dire quotidien, j'allais dire humain. Je voudrais vous dire ceci, avant de parler du ciel et de son Père et de tout ce que le salut comporte d'éternel, le Fils de Dieu, Jésus, est venu sur cette terre résoudre des problèmes quotidiens. J'ai noté dans ce texte de l'Écriture, il guérit une femme qui a une perte de sang. Il guérit la belle-mère de Pierre qui a la fièvre, une perte de sang. La fièvre, c'est l'humanité. Hein. Il est invité à des noces, il n'y a pas de vin, il n'y a plus de vin. Il fait un miracle. Il change l'eau en vin. C'est des choses. Alors le miracle est un enfant possédé qui est pris de crise de démence. Ça, c'est le quotidien. Et Jésus le guérit. Jésus chasse le démon. Un paralytique qui est là comme ça de naissance. Et Jésus eh bien, lui redonne eh bien, la capacité de marcher. Il le guérit. Il y a encore là un miracle. Ce sont des mots de la vie quotidienne. J'ai trouvé David, un homme. Et je voudrais te dire ceci. Seigneur te cherche. Le Seigneur n'essaie pas de prendre une posture qui n'est pas la tienne. Un jour, Jésus sera obligé de dire à Zachée, un homme qui le cherchait, « Mais Zachée, descends de ton arbre, descends de ta hauteur. Toi, t'es monté pour essayer de me trouver avec tous tes raisonnements. Mais moi, je suis en bas, je suis venu te rencontrer. sur la poussière de cette terre. Jésus est descendu. Et je voudrais te dire ceci, toi qui es peut-être dans ta misère, qui est en train de te battre avec des problèmes complètement quotidiens, avec peut-être des addictions, avec les liens du péché. Mais Jésus est descendu jusqu'à toi. Alléluia. Amen. Il est venu jusqu'à toi. Eh bien, pour te libérer. Et lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque je lis ce que le Seigneur a préparé pour nous dans le ciel, mais c'est pour des hommes de la terre, pour des hommes et des femmes de la terre. Regardez dans Apocalypse au chapitre 21 ce qui nous est dit. Vous êtes toujours là ? Gloire à Dieu. Apocalypse 21, il nous est dit ceci au verset 3. J'entendis du ciel une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront mon peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Et regardez, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Amen, alléluia. Mais les larmes, le deuil, les cris, les peines, etc. Mais c'est les choses de la terre. Et on s'aperçoit que dans le ciel, le Seigneur a préparé un ciel de gloire pour ceux qui ont été sur la terre. Alléluia ! Tout à l'heure, Guillaume a chanté mon chant préféré. Si je pouvais, je le chanterais tous les dimanches. Homme de douleur. Ben oui, Jésus est venu comme ça. Homme de douleur. Il est venu pour se charger de nos péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il est venu pour sauver des hommes qui sont en pleine souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que s'étant chargé de nos maladies, il a vaincu la maladie, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il est ressuscité, alléluia. Il est l'auteur d'une espérance, d'un salut extraordinaire parce que nous l'avons expérimenté dans nos vies. Je voudrais te dire à toi peut-être qui découvre la parole de Dieu, qui découvre l'évangile, Jésus veut te sortir de ta dépression. Jésus veut pardonner tes péchés, il veut te libérer de tes addictions, parce qu'il est descendu, il te connaît de l'intérieur, Dieu s'est fait homme, alléluia. Mais il a souffert, il est ressuscité, et il veut partager avec chacun d'entre nous cette victoire, alléluia. Et c'est pour ça que dans l'Écriture, Dieu parle au travers d'hommes, au travers d'un homme comme David. Et David, c'est vraiment un homme dans la Bible où nous voyons tout ce que Dieu est capable de faire. C'est l'annonce de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Et plusieurs d'entre nous pourront dire, mais moi je ressemble à David. Vous savez, en préparant ces moments, je me suis dit, voilà, c'est mon deuxième point, David et la grâce de Dieu. Il a eu besoin de cette grâce et je m'aperçois de trois points concernant David. C'est un homme qui a été aimé de Dieu. C'était un homme qui était secouru par Dieu et c'est un homme qui était pardonné par Dieu. Aimé, c'est ce que ça veut dire, le nom David. Le prénom, si il y a certains qui s'appellent David, il y en a, voilà, ça veut dire aimé. Voilà. Celui qui est aimé. Dans la Bible, j'ai noté, le nom de David apparaît 911 fois. Et si on parlait hébreu, à la place de dire David, on dirait « celui qui est aimé ». Et nous voyons que dans la parole de Dieu, David, qui a été pris derrière les brebis, qui était oublié par les hommes, il n'a pas été oublié par Dieu, mais au contraire, il a été aimé. Alléluia ! Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais vous dire, si Dieu aime David, il est obligé d'aimer tous les hommes parce que devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. On peut venir de la paillade, on peut venir du Burkina Faso, alléluia, on peut venir de je ne sais pas où, mais on bénéficie du même amour, alléluia, alléluia. Et je voudrais te dire ceci, tu n'as plus le droit de dire que tu n'es pas aimé. Dieu t'aime d'un amour si grand et si puissant qu'il a donné sa vie pour toi à la croix du calvaire. Ça veut dire que tu as de la valeur, plus que de l'or, plus que de l'argent. C'est son sang qui a coulé à la croix. afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et David, dans le livre des psaumes, eh bien, va parler avec passion de son Dieu. C'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on lit eh bien, les psaumes. Et je prends par exemple le psaume 139. Vous savez, il y a une théorie qui dit que David, parce que dans le psaume 51, il dit « j'ai été enfanté dans le péché ». Alors, certains ont pensé que David, peut-être, était le fruit d'une relation extra-conjugale. C'est une théorie, on n'en sait rien, mais bon, c'est une théorie. Et c'est pour cela que Isaïe voulait le cacher. Mais Dieu ne l'avait pas oublié, alléluia. Et peut-être que toi, tu as dit, mais écoute, cache-toi, tu nous fais honte. Cache-toi, eh bien, toi, vaut mieux qu'on ne voit pas. Mais voici, lorsqu'il a rencontré, eh bien, l'amour de Dieu, David, au psaume 139, pourra dire ceci au psaume 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, alléluia, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient dessinés avant qu'aucun d'eux n'existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. » Et il dira même au verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Il dira ceci, « Mais peut-être que je n'ai pas été désiré, peut-être qu'on m'a oublié, je n'ai pas été aimé, mais Dieu m'aime. Alléluia. J'ai de la valeur. Avant même que, même si les gens n'avaient pas prévu ma venue, mais Dieu savait, lui, que j'allais venir. Et il n'a pas été pris au dépourvu. Il m'a donné le Fils de son amour. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça, c'est le beau message de l'Évangile. Et l'Écriture nous dit que David n'a pas eu une petite place dans le plan de Dieu. Il est devenu un roi en Israël et certainement le plus grand des rois. Et l'Écriture nous dit qu'en Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia ! Mais c'est ça ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ça ce que Dieu fait dans notre vie. L'autre point qui nous touche, c'est que on voit que David, c'est un homme qui a été à de nombreuses reprises secouru. C'est pour ça que les chrétiens, les enfants de Dieu, ils aiment lire les psaumes. Vous aimez lire les psaumes ? Moi, tous les jours, je lis les psaumes. Je lis les psaumes parce que je trouve dans ces psaumes des hommes faillibles, des hommes fragiles, et qui expriment, mais avec un naturel déconcertant, eh bien, leur misère, leur faiblesse. « Seigneur, sauve-moi, au secours, je suis en train d'étouffer, je m'enfonce. Seigneur, viens à mon aide, j'ai besoin de... » Et David fait partie de cela, alléluia. Et c'est quelque chose de réconfortant parce que, eh bien, on voit que ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous. Quand on a affaire à un diagnostic médical qui nous a complètement ébranlés, dire « Mais enfin, sois solide dans la foi. » Oui, je suis solide dans la foi, j'aime le Seigneur, mais ça m'a quand même ébranlé. Ça m'a quand même perturbé. Ça m'a quand même fait réfléchir. Voilà. Mais voilà, je lis dans les psaumes, eh bien, qu'il y a des hommes qui sont passés, eh bien, par le même cheminement. Et dans le psaume 18, au verset 18, eh bien, David exprime, eh bien, sa douleur face à un ennemi qui est plus puissant que lui. Et il dira, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Ça s'apprend à faire confiance au Seigneur. David a appris. Je le dis souvent, mais Dieu lui a ôté tous les points d'appui qu'il avait, les uns à la suite des autres. Son roi qu'il servait est devenu son pire ennemi. Il a dû quitter son foyer. Ensuite, son meilleur ami ne l'a pas suivi dans la fuite, Jonathan. Ensuite, le prophète Samuel est mort. Et même, lui-même, à un moment, il a un peu perdu la tête. Mais celui qui est demeuré le même, celui qui n'a pas changé, c'est son Dieu. Alléluia. Et il dira son rocher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît dans David. Seigneur, merci parce que tu m'aimes d'un amour extraordinaire. Mais merci également, Seigneur, parce que tu es le secours dont j'ai besoin. Et tout ça, et si je suis, si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas à nos biscottos qu'on le doit. Ce n'est pas à notre cerveau qu'on le doit. C'est à ton amour, à ta grâce, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, l'autre point concernant la grâce de Dieu, eh bien, c'est que David, c'est un homme qui était pardonné. On connaît tous cette affaire, cette histoire de Bathsheba. Alors, elle n'est pas écrite afin que nous puissions dire « c'est pas grave si j'ai un écart ». Non, non. Mais d'ailleurs, si quelqu'un au milieu de nous prenait l'amour de Dieu à la légère ou le pardon que Dieu veut vous offrir comme une espèce de blanc-seing pour vous permettre de faire tout et n'importe quoi, vous vous trompez grandement. Et c'est même une ruse du diable. Mais c'est pas grave, tu peux pécher. Mais le péché, c'est comme un monstre qui détruit. Hein. Oui, le Seigneur va te pardonner, bien sûr, mais dans quel état tu vas ressortir ? Dans quel état tu vas ressortir ? Je ne me souviens plus du nom de ce prophète, eh bien, qui dira, eh bien, comme un berger retire une patte de la gueule du lion, bah, il n'a pu sauver que ça. Il n'a pu sauver que ça. Voyez. Et parfois, on a vu des bien-aimés. Oh, mais c'est pas grave. Vous êtes trop prudent, voilà, mais il faut profiter. Et puis, tac, et puis la tentation, le diable, il est là. Hein, il en sait plus que toi. Hein, tac, tu tombes. Et on voit des vies brisées. Oui, le Seigneur n'a jamais cessé d'aimer. Le Seigneur n'a jamais cessé d'aimer. Mais que de malheurs évités. Que de malheurs qui auraient pu être évités. Et ici, David, vous connaissez cette histoire avec Bathsheba. Mais ce qu'il y a à en retenir, eh bien, c'est que cet homme, malgré eh bien, cette chute, est toujours aimé par son Dieu qui pardonne toujours. Alléluia. Amen. Et je voudrais te dire ceci, mon ami, eh bien, le Seigneur t'aime encore, il t'aimera toujours et il attend que tu reviennes à lui, il attend que tu puisses, eh bien, comme un simple homme, revenir de tout ton cœur. Je voudrais qu'on lise dans le livre du prophète Michée, voilà, vous l'avez le livre du prophète Michée. C'est juste après Jonas. Alors, je ne sais pas si ça vous aide. Hein. Michée, chapitre 7, et le verset 18 nous dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Mais qui est comme Dieu ? Alléluia ! Gloire au Seigneur ! C'est un homme qui a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que ce secours, cet amour, ce pardon, il est pour nous également. Alléluia en Jésus-Christ. Et je voudrais te dire, eh bien, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Je répète, le fait que le Seigneur nous pardonne eh bien, de telles choses, ça ne signifie pas qu'on doit les faire. Parce que si vous connaissez la vie de David, il y aura quand même des conséquences à son péché. Il y aura des conséquences. Il va perdre toute son autorité familiale. Voilà. Oui, il y a des conséquences. Bien sûr, le Seigneur restaure, bien sûr, mais tant de douleurs auraient pu être évitées. Mais je voudrais peut-être eh bien, m'adresser à quelqu'un qui est avec un combat. Peut-être c'est secret, peut-être c'est dans ton cœur, peut-être que personne ne le sait. Peut-être que c'est... Mais je voudrais te dire ceci. Eh bien, avec ce que nous avons lu, Dieu t'aime et il veut t'aimer encore. Laisse-toi aimer, laisse-toi pardonner, laisse-toi être relevé par le Seigneur. Alléluia. Alors tout ça, ça fait eh bien, que Dieu nous amène à considérer David un homme. Je rappelle, un homme. Vous avez vu, c'est des expériences d'homme qu'il vit, David. Ce n'est pas des expériences, j'allais dire, de personnes avec des gens de romans imaginaires. Non, c'est un homme qui marche sur la terre des hommes. Voyez. Et Dieu le rencontre. Et c'est là que Dieu le secourt. Et nous y découvrons donc un homme, mais alors selon le cœur de Dieu. Et je crois que c'est ça que Dieu recherche. Hier, Guillaume partageait avec nous le témoignage d'Abraham, cet homme qui a dû grandir dans la foi, qui a dû grandir, devenir un homme de Dieu. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a des caractéristiques, et je crois que nous aussi, on a besoin de grandir avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire un homme selon le cœur de Dieu ? Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme dont Dieu est au centre de sa vie. Sa priorité, c'est Dieu pour lui, c'est Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire dans sa vie, c'est un homme qui a un cœur intègre, un cœur qui est entier devant Dieu. Seigneur, je suis pas sur deux tableaux. Je ne suis pas un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je ne suis pas en train de faire, je ne sais pas, une espèce de diplomatie spirituelle en disant, ben voilà, je te consacre certains temps dans la journée ou dans la semaine, et puis le reste, ça m'appartient. Vous voyez ? Il y a quelques années en arrière, le frère Serge Gaillard, lorsqu'il était à Clermont-Ferrand, il avait été surpris parce qu'il y avait des frères qui étaient là et ils avaient un petit souci, c'était qu'ils étaient toujours pris par la cigarette. Voilà. Et alors, ils avaient trouvé une doctrine, ils ne luttaient pas trop contre ça. Voilà. Il y a des personnes qui luttent, et il faut lutter. Le Seigneur, si vous avez ce souci, moi, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Merci Seigneur, je fumais, mais Jésus m'a libéré de la cigarette. Merci Seigneur, alléluia. Il y en a qui... Vous fumiez, pasteur ? Enfin, je n'étais pas pasteur. Et, enfin, c'est important de le dire. Mais oui, mais Jésus m'a libéré de la cigarette. Voilà, gloire à Dieu. Et donc... Il racontait ceci, il sort d'une réunion, même je crois que c'était un jeûne et prière, et il voit 3-4 frères là qui sont le long du mur. Là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites? Mais pasteur, c'est notre quart d'heure de païen. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette doctrine? Le quart d'heure de païen. Oui. C'est-à-dire que toute la journée c'était ça, mais il y avait 15 minutes, c'était le quart d'heure de païen. Qu'est-ce que c'est? Mais un homme selon le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est entier pour le Seigneur. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui constitue un contre-témoignage, mais il s'empresse de dire, Seigneur, mais libère-moi de ça. Il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui ne se voient pas, mais le Seigneur, il voit tout. Hein. Et donc, on voit David. Alors, on n'a pas le temps de lire, mais enfin, on peut le lire quand même. Allez, le psaume 26. Vous êtes avec moi toujours ? Allez, le psaume 26, pour vous montrer un homme selon le cœur de Dieu, ce qu'il a dans son cœur quand même. Le psaume 26, voilà, on y est, psaume 26, voilà. Rends-moi justice, Éternel, je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer... au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, je marche dans ta vérité, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer partout. Je ne m'assieds pas avec les gens faux, dissimulés au travail, dans la rue. Bien sûr, on est dans le monde et il y a des conversations, enfin des relations qu'on est obligé d'avoir, mais on ne marche pas sur le même sentier. Alléluia. Et un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui intègre. Amen. Alléluia. J'avance pour dire un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a une vraie motivation, un homme, une femme, qui a un cœur de serviteur. Il a un cœur de serviteur. Ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Souvenez, lorsque David sera face au géant Goliath, il va remporter une excellente victoire et il va libérer le peuple. Et avant qu'il remporte cette victoire, il va avoir des mots tout à fait formidables. Il dira ceci, « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Et plus loin, il nous est dit, « Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et il dira, « La victoire appartient à l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il est en train d'affirmer que sa victoire, elle provient de Dieu. Et la victoire qu'il va remporter, ce n'est pas David qui va être glorifié. C'est Dieu qui va être glorifié. Alléluia. Et c'est ça, un cœur de serviteur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes, alléluia. Qu'on soit en train de balayer la salle, qu'on soit en train d'être à la batterie, qu'on soit en train de faire chanter, de prêcher, qu'on soit au gib, qu'on soit avec les ados, qu'on soit au stand biblique, qu'on soit assis sur une chaise. On ne le fait pas pour les hommes, mais Seigneur, on veut te servir. Alléluia, alléluia, amen. Et Seigneur, s'il y a quelque chose, dans mon attitude, dans ma mentalité qui te déplaît, mais Seigneur, montre-le-moi. Seigneur, je veux passer par l'humilité. Je ne veux pas chercher ma propre gloire, mais c'est toi que je veux rechercher. Alléluia. Et vous avez vu, tout est pur quand c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et puis un homme selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui a un cœur pour sa génération. Acte 13, 36 nous dit « Il a servi en son temps au dessein de Dieu. » En son temps, ce verset a retenu mon attention. C'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur. Ce n'est pas demain. Ah, mais si ça avait été il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était, voilà. Et on repasse dans notre cœur les bienfaits de l'Éternel. Vous avez certainement vécu des choses merveilleuses avec Dieu il y a 20 ans, il y a 30 ans, je parle aux plus anciens d'entre nous. Mais gloire soit rendue au Seigneur, mais moi aussi j'ai vécu des bonnes choses il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais c'est pas ça qui compte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et la Bible nous dit que David, a servi au dessein de Dieu dans son temps, dans sa génération. Si je regarde ce qui se passait, il y avait un temps d'apostasie. Le roi abandonnait l'Éternel. Il était même antichrist, le roi Saül. C'était un peuple qui était dans la défaite face aux Philistins. C'était une période où l'action du Saint-Esprit était rare. Et bien, c'est dans ces moments-là qu'il s'est levé, il a relevé le défi. Et nous sommes dans un monde aussi qui a abandonné Dieu. On voit le péché qui triomphe de toutes parts. Nous voyons également que les pentecôtistes, les hommes et les femmes qui croient dans l'action du Saint-Esprit, on n'est pas si nombreux que ça dans ce pays-là. Mais le Seigneur veut qu'on relève le défi. Alléluia. Qu'on soit de ces hommes et de ces femmes, qui sont des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Je vais vous dire, pendant ces quelques jours, je lisais un bouquin, alors j'ai trouvé une nouvelle façon de lire des livres maintenant, c'est que je lis les livres en les écoutant. Ça s'appelle des audiolivres. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors plutôt que d'écouter la radio, en voiture, tout ça, j'écoute un bouquin. Et là, un bouquin d'un pasteur américain qui... le titre, accrochez-vous, « Dieu et le débat transgenre ». Des gens qui souffrent de dysphorie de genre. Dans leur corps, c'est un homme. Dans sa tête, c'est une femme. Savez-vous que les gens qui sont transgenres, 30% d'entre eux, plus de 30%, le tiers, se suicident. Si vous en avez vu 3, il y en a un qui est déjà parti en enfer. Ça nous touche quand même. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? Est-ce qu'on leur dit, on va se moquer? Est-ce qu'on va dire, dis donc, heureusement que je ne suis pas comme lui, hein? Ou est-ce que dire, Seigneur, mais comment on va faire pour toucher ces gens dans cette génération? C'est terrible ce qu'on voit, Kenny. Qu'est-ce que t'en penses? On n'aurait jamais cru qu'un truc pareil puisse exister. Et pourtant, ça existe. Et pourtant, mes frères et sœurs, Jésus est mort pour eux. Et il est mort pour eux. Il a donné sa vie pour eux. Et peut-être une petite solution, peut-être une parole qui pourrait faire comprendre que Dieu les aime. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a vécu dans son corps quelque chose qui n'était pas du tout en harmonie avec ce qu'il y avait dans son âme, c'est le Seigneur. À la croix, il souffre comme un pécheur. Il est blessé. Mais est-ce que Jésus, c'est un pécheur? Est-ce que dans son cœur, il a péché? Non. Imaginez la souffrance. Je supporte ces souffrances jusqu'à être séparé de mon Père, mais d'une manière injuste. Mais je donne ma vie pour eux afin qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur est capable de rétablir le désordre qu'il y a dans les cœurs. Alléluia. Et nous, en ce qui nous concerne, on peut dire, Seigneur, on veut aimer ces personnes, même si on ne comprend pas tout, même si on sait pas, on n'a pas toutes les réponses, mais Dieu les aime et veut les sauver. Alléluia. Et Dieu est capable de faire des miracles. Nous le croyons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on est dans une génération perverse et corrompue, pour laquelle Jésus est mort et que Dieu veut entraîner, vous vous souvenez, Apocalypse 21, j'essuierai vos larmes. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni larmes. C'est aussi pour tous ces hommes, ces femmes-là. Alléluia, amen. Il y a une espérance. Et je crois que au milieu de nous, le Seigneur veut lever des David, mais chacun d'entre nous, et c'est mon dernier point, je termine. David, un homme qui était à l'image du Fils de Dieu. Ce qui est formidable lorsqu'on lit David, c'est qu'on retrouve la personne de Jésus. D'ailleurs, l'Écriture ne s'y trompe pas. Lorsque Jésus viendra, on l'appellera le fils de David. C'était le titre du Messie, le Christ, le fils de Dieu. Bah, on voit David pardonner, on voit sa miséricorde, on voit un homme qui est fort face à l'ennemi, un homme qui aime Dieu par-dessus tout, un homme de prière, et un homme qui reflète la personne, l'amour de Christ, de Jésus. Un homme avec des failles, mais un homme qui a donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Et quand on pense à David, on voit ce roi qui a régné avec justice et qui est devenu un héros en son temps. Alléluia. Un héros. Pourtant, il était parti de pas grand-chose. Un homme victorieux. Alors, dans cette matinée, je termine complètement, mon appel, c'est que nous puissions nous lever les uns les autres en disant, Seigneur, je suis comme David. Ça veut dire bien-aimé. Je suis aimé de toi. Alors, Seigneur, dispose de ma vie. Seigneur, c'est un défi. Mais Seigneur, sers-toi de moi dans cette génération afin que je sois un témoin dans cette génération. Alléluia. J'ai besoin de ta grâce. Il y a toute une partie dont je n'ai pas parlé. C'est toute l'action du Saint-Esprit dans la vie de David. C'est ce qui va le rendre fort. Certainement, on y reviendra. Mais combien nous avons besoin de dire, Seigneur ? Vous avez lu ? J'ai trouvé David. Dieu a cherché, il a trouvé un homme qui a dit, Seigneur, j'ai entendu ton appel. J'ai entendu ton appel. Seigneur, il a répondu positivement. Alléluia. Est-ce que nous, à notre niveau, pouvons dire également, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es peut-être un chrétien depuis de longues dates, dire, Seigneur, je veux entrer dans le plan que tu as préparé pour moi. Alléluia. Faire connaître ta bonté dans ma famille, dans mon quartier, dans mon travail, dans mon église. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on pense à David, on pense à un homme qui a gagné. Alléluia. Qui a vaincu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voulez qu'on prie le Seigneur quelques instants ? Seigneur, nous te rendons.